Donc, le grand A, le rôle de l'exégète. Alors, l'exégète, c'est celui qui... Alors, vous savez, exégésis en grec, ça veut dire explication, interprétation. Donc, c'est un nom savant pour dire celui qui interprète. Alors, là, c'est toujours mon commentaire du texte de la commission biblique. Hein. Alors, sa tâche, souligne la commission, c'est une tâche ecclésiale, donc c'est pas une tâche, on pourrait dire, d'amateur ou d'érudit qui fait son truc de son côté et qui publie les idées qui lui viennent en travaillant. En fait, c'est une tâche ecclésiale, ça veut dire qu'en fait, il contribue au bien de l'Église. Donc, ça, il a une responsabilité vis-à-vis de l'Église. Et sa responsabilité, c'est de mettre les richesses de l'Écriture à la disposition des fidèles et des pasteurs. Hein, enfin, voilà. Bah, parfois, dans mon sermon, il y a des trucs, c'est pas de moi. Hein, c'est lu dans les bons livres. Enfin, surtout dans les... Enfin, vous voyez, des petites idées qu'on trouve dans les Bibles. Donc, il faut être attentif à la double dimension de l'Écriture, qui est à la fois un texte humain. Alors, c'est vrai que, du coup, il y a une médiation parfois très épaisse par les auteurs humains, mais en même temps, c'est le dépôt de la révélation divine qui est confié non pas au Père Machin ou au Père Truc, mais qui est confié à l'Église dans sa totalité, dont le Père Machin et le Père Truc sont théoriquement les serviteurs. Vous savez, il y a un professeur d'exégèse du Nouveau Testament à l'Institut catholique de Paris, qui est un basque, et il s'appelle, d'origine basque espagnole, il s'appelle Jesús Azurmendi. Alors ça donne Jésus a sûrement dit. Voilà. Et alors, expliquer le Nouveau Testament en s'appelant Jésus a sûrement dit, je trouve que, franchement, c'est difficile de faire mieux. Hein. Et donc voilà, la commission donc disait, la tâche commune des exégètes n'est pas terminée lorsqu'ils ont distingué les sources, défini les formes ou expliqué les procédés littéraires. Le but de leur travail n'est atteint que lorsqu'ils ont éclairé le sens du texte biblique comme parole actuelle de Dieu. Vous voyez ? Donc, autrement dit, ils ne sont pas là pour tout déconstruire et puis livrer ensuite un meuble sans mode d'emploi, ni vis, ni clou. Mais ils sont là, au contraire, pour que le meuble soit plus joli. Quoi. Donc, il s'agit vraiment, quand on étudie la Bible et qu'on en fait son métier de professeur, eh bien, de dégager la portée christologique, canonique, et ecclésiale de la Bible, christologique, hein, tout parle du Christ, comme on le verra dans l'exégèse patristique, canonique parce que on n'est pas là pour dire que telle strate historique du texte est plus authentique que telle autre, mais finalement ce qui compte c'est la décision des évêques au 1er siècle, au 2e siècle, d'avoir pris le texte dans sa totalité et qui nous le livre comme parole de Dieu. Hein, même s'il y a eu des rajouts, des réinterprétations tout au long de l'histoire biblique. Et puis ecclésial, parce que justement, ils sont serviteurs de l'Église. Voilà, et puis la tâche des exégètes, c'est la recherche, l'enseignement et la publication. Enfin, autrement dit, la croix de tout professeur d'université. Parce qu'en fait, ce qui rajoute à la croix, c'est les tâches d'administration qui souvent prennent du temps. Alors, du coup, comme l'exégète est appelé à ne pas travailler dans son coin, il doit collaborer avec les autres disciplines théologiques, cette petite B, parce que l'exégèse biblique, c'est en fait une partie de la théologie, une discipline théologique, et donc elle part d'un présupposé, et ça... C'est justement toute l'erreur des exégètes libéraux. Le présupposé, c'est que l'écriture est parole de Dieu. C'est-à-dire, l'exégète libéral, il part du principe que c'est un texte comme un autre. Et si éventuellement on tombe sur Dieu, c'est pas mal. L'exégète chrétien, théoriquement aussi protestant, part du principe que c'est la parole de Dieu et c'est le principe herméneutique de l'ensemble. Voyez. Donc c'est un présupposé, oui, certes, un présupposé qui est théologique, dogmatique. Hein. Qu'est-ce que c'est que la Bible ? Dit le texte de la commission biblique, c'est un texte inspiré par Dieu et confié à l'Église pour susciter la foi et guider la vie chrétienne. Donc les deux dimensions, dogmatique et morale. Et donc le rôle de l'exégète là-dedans, parmi les autres disciplines théologiques, c'est de souligner le caractère historique de la Bible, la nécessité aussi d'une approche, d'une interprétation. Enfin, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et en effet, le rôle de l'exégète ou du théologien de la Bible, c'est d'éviter de réduire la Bible à ce qu'était longtemps, souvent, surtout à l'époque baroque, un arsenal de citations, un arsenal de dicta probantia, c'est-à-dire on cherche à dire un truc, alors on va prendre un bout de verset qu'on va décontextualiser pour appui de sa théorie. Alors comme on peut trouver tout et le contraire de tout, on arrive à des théories qui se prétendent fondées sur l'écriture et qui sont parfaitement contradictoires. Donc en fait, il ne faut pas, si on peut dire, utiliser l'écriture ou la manipuler, mais il faut plutôt se laisser travailler ou se laisser inspirer par elle, vous voyez. Et donc ce qui est toujours un peu impressionnant dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi, comme le dit Vatican et Vatican II dans la Constitution sur la révélation, c'est-à-dire que un élément de l'abîme doit toujours être consonné avec l'ensemble. Et on ne peut pas développer une théorie qui serait contraire, je dirais, à ce que la Bible dans son ensemble nous enseigne. Donc c'est important, notamment en morale, parce que la Bible, et notamment l'Ancien Testament, comporte des dispositions dont on peut dire qu'elles sont caduques, et d'autres qui sont universelles. Certaines qui sont donc passées, et d'autres qui demeurent. Donc il faut éviter le fondamentalisme, autrement dit, comme dirait saint Paul, la lettre qui tue. C'est le premier à avoir utilisé cette distinction finalement entre la lettre qui tue et l'esprit qui vivifie. Et il le ressort à plusieurs reprises. Alors vous voyez, d'une certaine manière, j'utilise la lettre pour dénoncer la lettre. Mais donc la lettre de saint Paul dénonce, on dirait, une approche trop fondamentaliste. Donc qui aboutit à effectivement la division, puisque je vous dis, on trouvera toujours un texte qui contredit l'autre. Il faut donc pratiquer une interprétation, une herméneutique qui évite aussi le dualisme, par exemple d'un côté il y aurait les études bibliques publiées à 15 exemplaires, des thèses de 1000 pages, et puis les biblistes entre eux se disent un certain nombre de choses, puis de l'autre côté, tout le reste de la théologie qui vivrait comme s'il n'y avait pas de recherche biblique. Donc vous voyez, c'est aussi un risque. Il faut qu'il y ait une communication entre les théologiens et les biblistes. L'autre jour, par exemple, j'étais intéressé par Avi Gratzbad, entre la poire et le dessert, enfin entre la poire et le fromage, comme on dit, sauf qu'il n'y a pas de fromage, on discute à table. Et l'abbé Crass, qui est qui s'occupe de la propédeutique, est aussi un professeur d'écriture sainte. Alors on parlait de choses à propos de la lecture qu'on avait entendue, et c'était intéressant parce que tous les autres, on était professeurs de théologie, et en fait, ils nous disaient un certain nombre de choses en disant, ça, par exemple, on ne pourrait pas le dire aujourd'hui parce que justement la recherche biblique nous permet d'avoir un consensus sur tel ou tel sujet. Et alors à ce moment-là, nous, c'est intéressant parce qu'on apprend des choses. C'est quand même la discipline qui est en amont. Et puis après, les autres disciplines théologiques sont en aval. Donc c'est intéressant de pas confiner les études bibliques dans un petit milieu qui où elles porteraient pas de fruits, féconderaient pas, disons, l'ensemble de la théologie. Donc, le Concile de Vatican II, justement, dans un texte consacré aux études théologiques, affirme que l'étude de l'Écriture sainte doit être comme l'âme de la théologie tout entière, et non pas la philosophie d'Aristote ou celle de Platon ou je ne sais quoi, mais l'âme de la théologie, c'est de la théologie chrétienne, donc c'est la révélation chrétienne consignée dans les Écritures et la tradition. Voilà, et donc du coup, le sens littéral des différents livres de la Bible doit être mis en valeur, convenablement présenté pour servir de base à la reprise par les théologiens, soit en dogmatique, soit en morale, soit en spiritualité, soit enfin, vous voyez, les différentes disciplines de la théologie. Alors, grand B, la commission nous parle également de l'actualisation et de l'inculturation. Et elle donne des principes et des méthodes. Alors, l'actualisation est possible car la plénitude du sens biblique lui donne valeur pour toutes les époques. C'est exactement ce qu'ont pratiqué les Juifs depuis le début. Hein. C'est-à-dire que chaque époque, ils relisaient leur texte et ils actualisaient le texte. En quoi le texte aujourd'hui est actuel pour un Juif de l'époque de Jérusalem, du royaume à Jérusalem, pour un Juif dépossédé de son royaume après, etc., etc. Donc, c'est en quoi un texte est actuel pour aujourd'hui. Remarquez, c'est la même chose. Si vous lisez La Fontaine ou La Bruyère, vous vous dites en quoi le texte de La Bruyère, les caractères, par exemple, actuels pour aujourd'hui. Ben, en fait, il l'est à bien des égards. Hein, parce qu'il touche... Plus vous touchez des choses fondamentales qui touchent la philosophie naturelle ou qui touchent encore plus profondément la théologie elle-même, et c'est bien le cas de la Bible, eh bien, plus c'est actuel, hein, parce que c'est vraiment universel dans le temps et dans l'espace aussi. Et alors que quand la Bible nous parle de physique ou de botanique, là, on peut se dire que c'est pas nécessairement actualisable. Hein. Alors, donc, vous voyez, toutes les époques, c'est ce qu'on appelle l'actualisation, rendre actuel un texte, et toutes les cultures, c'est ce qu'on appelle l'inculturation. Et on peut se dire, c'est un peu... Enfin, c'est lié à l'incarnation. Hein. Jésus ne s'est pas incarné dans toutes les nations possibles, ou toutes les races possibles, ou même toutes les époques possibles. Il s'est incarné à un moment donné, dans un pays donné, dans une nation donnée, etc. Donc, d'une certaine manière, il s'est fait juif. Hein. Il s'est fait homme, mais il s'est fait juif. Et d'un autre côté, s'étant fait juif, il s'est fait en même temps homme, puisque les juifs sont des hommes quand même. Donc ça veut dire qu'il est à la fois particulier, c'est-à-dire d'une culture donnée, et en même temps universel, parce qu'il est homme en fait. Et alors, la question c'est comment le fait d'être devenu homme à une époque particulière du temps, dans une culture donnée, ça a une dimension universelle qui peut être transposée à d'autres cultures. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inculturation. Alors, savoir comment... Alors, là-dedans, il y a apprendre et à laisser. C'est-à-dire, il y a des choses... C'est exactement ce que fera saint Paul quand il va annoncer l'Évangile aux païens, aux nations païennes, globalement, qui ont une autre culture que la culture juive, judéenne. Donc, il va en prendre et puis il va en laisser. Il va prendre ce qu'il y a d'universel et il va laisser ce qui est... ce qui est trop singulier ou périmé. Saint Thomas d'Aquin, quand il va étudier l'Ancien Testament, il parlera des cérémonies qui sont devenues caduques et celles qui demeurent, d'une certaine manière. Donc la grande idée, c'est que il y a une fécondation mutuelle. L'écriture sainte, transposée dans une culture, va d'une certaine manière lui révéler à cette culture les richesses qu'elle porte et qu'elle n'a pas encore déployées. C'est très clair chez nous, Européens, la fécondation par la Bible, qui est quand même juive, de la pensée juridique, philosophique, théologique de l'Occident, de la Grèce, de Rome et tout ça, ça a permis un développement considérable. Hein. Même quand Benoît XVI disait aux Bernardins, même le développement technique, les Romains avec toute leur technique, avaient découvert un certain nombre de choses, mais pas tout. Et en fait, c'est par cette culture du travail des élites, travail manuel des élites, développé dans les monastères, que en fait, ces gens intelligents ont trouvé plein de choses pratiques, de techniques, que les Romains de l'époque se contentaient. Qui étaient architectes, etc., c'était des esclaves affranchis. Hein. Mais les gens de l'élite, eux, ils se contentaient de faire des vers et de gérer leurs sous. Donc, donc vous voyez comment, finalement, cette culture du travail manuel de la Bible, passée en Occident, a permis un développement extraordinaire des techniques que même l'époque grecque ou romaine avait connues à certains égards, mais pas à d'autres. Et puis également, ça permet aussi de relativiser des éléments de ces cultures qui apparaissent comme, je dirais, contraires à la révélation et qui sont éliminés. Par exemple, dans notre culture occidentale, qu'est-ce qui a été éliminé? Une certaine cruauté. Regardez l'exposition des enfants, l'avortement. Hein, les premiers textes chrétiens, dès le 1er siècle, mettent le doigt sur l'infanticide et l'avortement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le mépris de classe, le fait de dire qu'on est tous frères dans un monde qui était marqué par la ségrégation entre patriciens et plébéiens, entre hommes libres et esclaves, ça a quand même aussi, entre hommes et femmes, regardez, c'est exactement, je suis en train de paraphraser Saint Paul aux Galates, il n'y a plus ni l'homme ni la femme, ni le maître ni l'esclave, ni etc. Donc vous voyez comment notre culture européenne de base, elle a été purifiée de certains aspects qui étaient hérités du péché originel, en gros, et elle a été en même temps fécondée, donc certaines choses qu'elle portait en elle ont pu se déployer. Et ce qui est vrai en Occident latin, ça a été vrai aussi dans l'Occident, dans l'Europe orientale, avec les peuples slaves et autres, arméniens, etc., etc. Et puis c'est vrai dans toutes les cultures qui ont été ensuite touchées l'Évangile. Il y a... Alors,